Permettez-moi d'interrompre cet épisode 60 secondes. J'ai un message important pour vous. Atteindre 10 000 euros de revenus mensuels stables et prédictibles, même si vous démarrez de zéro, cela vous semble impossible ? Bonne nouvelle ! Du 30 avril au 5 mai, nous organisons le plus grand événement en ligne francophone de l'année pour les entrepreneurs. Le challenge entrepreneurs.com. 100% gratuit, 5 jours intensifs pour propulser votre business. Chaque jour, vous aurez accès à des sessions live exclusives avec des experts de renom. Ce n'est pas juste un événement en ligne, c'est une chance de faire un vrai changement grâce à des conseils et des méthodes prouvées. C'est une opportunité d'échanger en live avec mon équipe et moi pour faire avancer votre projet. C'est la garantie d'évoluer et de progresser dans un environnement sain et profiter d'une communauté unique. Je vous invite maintenant à réserver votre place. Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, consultez notre site podcastledeclic.fr ou cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Merci pour votre confiance et maintenant, place à notre épisode du jour.
La plupart des NFT vendus, je dirais presque 99% des NFT vendus, dans le blockchain on dit code is law, mais c'est pas vrai en fait, le droit c'est le droit. Donc si t'as pas des conditions générales de vente bien définies qui sont intégrées dans le NFT, en fait ce NFT n'est pas vraiment valide. T'achètes quelque chose, mais t'achètes quoi réellement? T'achètes le droit de le regarder, de l'utiliser, de faire un logo, tout ça était dans un flou total. En fait personne n'est protégé, ni les artistes ou les créateurs, ni les acheteurs. Tout est possible en fait, on peut NFTiser à peu près tout. T'as une très belle voix, tu pourrais la NFTiser et la vendre pour un usage par exemple. Donc tout est possible, donc on a créé Space 3 pour justement permettre au public, aux collectionneurs, de toucher, comprendre et rentrer dans un espace qui est safe.
Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, comme à chaque fois, j'ai la chance d'accueillir un entrepreneur au parcours inspirant. Je pense qu'on va parler de bon nombre de sujets. Aujourd'hui, j'ai Salar qui est avec moi. Salar, t'as un parcours de fou. Salar Shahana, qui est passé du film, VR, NFT. Il y a toute une industrie, t'as énormément de casquettes à ton arc. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, d'une part, et d'autre part, surtout, merci d'avoir accepté cette invitation. Et j'ai hâte qu'on vive ensemble ce moment et d'animer ce podcast.
Merci beaucoup, Alec. Je suis très, très honoré et enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Salar Shahana, je suis suisse, iranien, j'habite à Genève. Et pour me qualifier en deux mots, je pense que je peux dire que je suis artiste-entrepreneur. Dans le sens où j'ai toujours navigué entre ces deux mondes, entre la création artistique, l'entrepreneuriat, avec une dose de technologie dans la plupart de ces choses.
Totalement, totalement. Et on va parler de bon nombre de sujets, parce qu'aujourd'hui, du coup, t'as ton parcours dans le monde du cinéma, t'as également créé le forum World VR Forum, donc forum autour de la VR, XR également, vous avez fait même un partenariat avec Binance, aujourd'hui, t'as la tête de Space, donc tout un écosystème NFT autour de l'art. T'as aussi créé Atto, qui est une startup legal tech dont on va pouvoir parler, qui met en exergue et qui résout pas mal de problématiques dont peu de gens autour du monde même des NFT sont au courant. Moi, le premier, tu m'as appris des choses à ce sujet. Mais avant ça, justement, comment est-ce qu'on passe du monde du film au monde de la VR, au monde des NFT aujourd'hui? Et ça nous en dira plus un petit peu sur qui tu es et ton parcours.
Oui, bien sûr. Bon, la vie, c'est souvent la passion d'abord et puis après, c'est les rencontres. Une rencontre importante pour moi, ça a été Rita Production, qui est une maison de production à Genève, qui m'a offert tout d'abord l'opportunité d'un stage en fait pendant mes études. Et très vite, j'ai eu la chance de pouvoir faire d'autres choses dans cette société, direction de production, puis jusqu'au développement de la production transmédia. Ça veut dire donc étendre les propriétés intellectuelles des films sur d'autres supports. Et ça, c'était un grand déclic puisque j'ai eu la chance de procéder sur le film Ma vie de courgette, qui est un film d'animation succès retentissant. Et j'étais alors mandaté par la boîte pour pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener le personnage de courgette ailleurs. Et à l'époque, j'ai conçu tout un projet qui s'étalait de l'iPad au Google Glass. Et puis j'avais remporté donc un prix. On était 4 lauréats du premier projet Transmedia Project Suisse en fait. Donc c'est des fonds pour ces projets-là. Et on a été donc réunis après à Soleur, donc au cœur de la Suisse, dans un endroit qui n'est pas du tout technologique, pour se rencontrer avec les lauréats. Et c'est là où donc j'ai pu tester le casque de réalité virtuelle pour la première fois. C'était en 2014 et ça m'a vraiment fait un truc de fou quoi. Ça m'a rappelé mon premier film au cinéma quand j'avais 3 ans où j'étais vraiment scotché à l'écran et complètement passionné. Donc ça a été le premier virage, puisqu'après avoir fini en fait les projets qui étaient en cours avec Rita, la société qui développait du verre, qui s'appelait Ape Lab, m'a invité à les rejoindre. Et là, on a pu voir voilà, quels étaient les points en commun qu'on avait dans nos univers, entre le cinéma et leur monde, qui était plutôt le monde issu du jeu, pour la réalité virtuelle. Et moi, j'ai appris énormément avec eux. Donc ça a été vraiment le passage du film en fait au verre.
Ok, super intéressant. Et justement, quand tu découvres ce premier, la première fois le casque de réalité virtuelle, est-ce que tout de suite tu te dis, oh, il y a quelque chose à faire, il y a un monde virtuel à créer, j'ai envie de faire partie de ces créations et de ce changement?
Oui, c'est ça, en fait, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que même sur le chemin du retour à Genève, mon cerveau bouillonnait, quoi. J'avais tellement d'idées pour ce que faisait Ape Lab, parce que je voyais, en fait, le potentiel infini de ce média-là. Et après, ce qui a été aussi frappant, c'est quand j'étais à la GDC à San Francisco, qui est la grand-messe du jeu vidéo, que je ne connaissais pas avant. On m'a regardé comme un débile quand j'ai dit, mais c'est quoi la GDC? Et j'ai compris que c'est l'équivalent du Festival de Cannes, on va dire, pour le monde du gaming. Et ça a été un choc positif en fait de voir que tout d'un coup en fait notre production et d'autres projets suisses d'ailleurs aussi étaient à égalité avec les Américains. Et ça c'est quelque chose qui est quasiment impossible ou rare, très rare au cinéma parce qu'on est dans quelque chose qui est déjà tellement établi. Et donc ça a été aussi très stimulant. C'est de un de voir les possibilités infinies d'un média qui est en devenir vraiment, qui est on est pile au début et en même temps les opportunités, on va dire, égalitaires qui semblaient présentes à ce moment-là.
Et c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui explique cela selon toi? Parce que moi-même, étant né en Suisse et en grandi en Suisse, c'est vrai que le monde du cinéma, par exemple, suisse versus le monde du cinéma français, qui lui-même versus le monde du cinéma américain, on est sur des économies d'échelle et qui sont disproportionnées l'une de l'autre. Alors que effectivement, là, par exemple, dans le domaine de la VR et tous ces nouveaux canaux de communication médias, on est sur les débuts et on se positionne plutôt bien. Qu'est-ce qui explique cela selon
Bon, alors
toi?
je pense tout d'abord, comme bah, tu disais, le cinéma c'est vraiment établi depuis longtemps. Donc quelque chose qui est tellement établi, c'est compliqué de le disrupter. Et en Suisse, bon, on a des bons instituts de formation et de recherche quand même. On a pas mal de place pour l'expérimentation, grâce au soutien public notamment et à l'accessibilité du matériel et de la pédagogie. Donc ce qui fait que dans quelque chose qui est complètement nouveau, qui change de langage, de grammaire, de développement, on a pu du coup être out of the box, avoir une page blanche, et dès lors profiter justement d'avoir un écosystème qui est solide, qui soutient les jeunes et les créatifs pour pouvoir en fait rentrer là-dedans. Et les autres, disons, n'étaient pas avantagés parce que c'était nouveau, c'était complètement nouveau, et c'est pas qu'avec de l'argent qu'on arrive à être créatif en fait.
Totalement, totalement. Et du coup, donc, tu t'es passionné par cette technologie que tu découvres, etc. C'est combien de temps plus tard que tu vas créer le
Ben
forum?
c'est peu de temps en fait, parce que c'est-à-dire le déclic intervient vraiment en rentrant de San Francisco, parce que je me dis, bon, en fait, la VR commence maintenant à devenir de plus en plus prisée, c'est tout nouveau, mais il y a beaucoup d'intérêt, mais il n'y a pas vraiment, on va dire, un festival de Cannes, comme on disait, ou un GDC pour ça seulement. C'est des plans d'accompagnement, quoi, tu en as dans les festivals de films, de jeux vidéo, mais rien dédié à ça. Et en plus, ce que je découvre qui est nouveau pour moi, c'est qu'au-delà en fait donc de tout ce qui est entertainment ou artistique, la VR aussi touche tellement d'autres domaines, quoi, que ce soit l'industrie, les sciences, le militaire, tout ça. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être important de créer une plateforme mondiale, c'est l'opportunité, et pourquoi pas justement l'avoir chez nous en Suisse, on arrive à croiser ces disciplines. Donc c'est en 2015, du coup, où je décide de faire ça. On avait aussi un des cofondateurs à l'époque qui me parlait de faire un festival de films à la montagne, et j'ai toujours trouvé ça pas très intéressant, parce qu'il y a trop de festivals de films. Et à partir de là, l'idée vient, ok, on va faire le plus gros, le meilleur festival de verre au monde, et ça va être à la montagne. C'est parti comme ça.
Ok, génial. Et justement, comment on passe d'une simple idée, volonté, entre guillemets, à aujourd'hui quelque chose de solide et de renommée mondiale? Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément le World VR Forum, est-ce que tu peux en quelques phrases, quelques chiffres, nous en dire un petit peu plus? Et puis après, on y viendra à comment est-ce que c'est devenu aussi gros que c'est
Ah, bien
aujourd'hui?
sûr. Donc, bon, alors, World VR, il y a eu 3 éditions. Et après, il y a eu une nouvelle structure qui a été World XR. Au début, il faut beaucoup de conviction, un peu de culot et de la chance. Pour le tout premier, parce que si tu veux, c'était au mois d'août 2015 où j'ai eu l'idée. Et j'avais décidé de lancer le premier au mois de mai 2016. Pourquoi mai? Parce que je l'avais collé juste au Festival de Cannes, en espérant pouvoir faciliter la venue des gens, en disant, OK, vous allez à Cannes dans tous les cas, vous arrivez de Los Angeles, de Shanghai, je ne sais où, venez une semaine plus tôt, vous passez par Crans-Montana et vous allez à notre événement. Donc ça, c'était une stratégie qui a été payante parce que c'était plus facile de convaincre les gens. Après, il y a eu, comme on dit, les Friends, Families and Fools, la famille étendue qui a aidé. Il y a eu des institutions qui sont rentrées derrière. Et puis Crans-Montana aussi qui a été déterminant puisqu'il nous a permis d'y arriver. Donc la première édition, il y avait déjà plus de 55 expériences VR, c'était un des records, ou c'était le record mondial à l'époque. Deuxième édition, il y avait plus d'un millier de personnes. La plus grosse, ça a été 2018 avec 3000. Après, il y a eu des changements d'équipe. On a passé au XR, parce que donc le X, ça veut dire Extended Reality, et V, c'est VR, Virtual Reality. C'était pour permettre en fait d'aller plus loin et d'englober d'autres technologies. Parce qu'au fur et à mesure, je me rendais compte que voilà, la VR, c'est un component, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'analyser l'ensemble du changement de paradigme en fait dans la relation au numérique, et que la VR, c'est un des aspects. Donc c'est parti comme ça. Et puis bon, après, évidemment, il y a le Covid qui est arrivé, et que ça a été très brutal pour l'organisation, vraiment.
D'accord. Ok. Et tiens, question bête peut-être, mais Covid qui arrive, brutal pour l'organisation, etc. J'imagine, hein, les forums, les séminaires. Enfin, moi-même, j'en organisais, j'ai complètement arrêté. Bon nombre de personnes autour de moi qui organisaient des séminaires à plusieurs milliers de personnes aussi, bah, ont arrêté. Pourquoi ne pas l'avoir fait en VR?
Alors, en réalité, parce que paradoxalement, la force en fait du forum, le sujet était le virtuel, mais la force c'était vraiment la rencontre physique en Suisse à Crans-Montana. C'est-à-dire le fait d'être vraiment réunis dans un village alpin qui se transforme en village du futur permettait un networking d'une qualité en fait vraiment exceptionnelle. Et ça a généré des liens aussi très inattendus. Hein. On a vu des boîtes de production film hollywoodienne bosser avec des labos de recherche neurosciences de PFL. Et ça, c'est des choses qu'on a pu émulser au forum. Et ça arrive parce qu'à ces rencontres physiques. Donc, si tu veux, j'avais pas en fait l'envie ou l'excitation de développer quelque chose dans le VR parce que je savais que le VR a plein de bonnes applications, le social c'en est une, mais ce que j'ai développé là-bas, c'était pas du tout virtuel au final. C'était vraiment cette rencontre humaine, le fait aussi dans des lieux d'exception. Donc c'était ça en fait l'ADN de ce forum. Et c'était pas d'aller basculer dans le virtuel. Donc j'ai pas voulu faire d'événement sur Zoom non plus. Ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle les XR Show, XR Chat. On a fait venir des petits groupes de gens à Crans-Montana. Et on a filmé, on a fait des talk shows de qualité en fait là-bas. Donc ça permettait de générer des micro-événements entre les personnes qui pouvaient venir et de garder l'ADN.
Ok, je vois, super intéressant. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait passer du monde de la VR au monde des NFT?
Alors ça a commencé en 2020. Ben 2020, en fait, ça devait être la plus belle édition du forum. C'est pour ça que je disais que ça a été très dur, parce que j'ai aussi fait l'erreur stratégique de pas tirer la prise quand le Covid est arrivé, en m'obstinant beaucoup trop longtemps à vouloir trouver une solution. Et je dis ça parce que donc on avait aussi un nouvel événement pendant le 2020. C'était un side event qui s'appelait le Blockchain Weekend. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Matthew Kinew, qui est vraiment un des plus grands experts européens de blockchain et NFT, qui est avocat. Et c'est lui qui a été un peu mon gourou NFT, qui a fait la curation du programme qui a été annulé, et qui était vraiment un programme presque, je l'appelle toujours l'oracle, Mathieu, parce que tout ce qu'il y avait dans le programme blockchain annulé s'est passé en fait dans les 2 ans qui ont suivi. Donc ça a été la porte d'entrée. Et puis, bon, moi j'ai fait du droit au tout début de mes études, donc ça m'intéresse aussi également. Et quand j'ai compris en fait tous les problèmes juridiques qu'il y avait autour des NFT, je trouvais ça fascinant. Et Mathieu, donc c'est lui qui était à l'initiative d'Atto avec Julien Béranger. Ils m'ont proposé de rentrer là-dedans, donc ça a été comme ça en fait par la préparation du forum annulé à tôt que je suis rentré dans ce domaine-là.
Ok, donc finalement, on constate encore une fois, et c'est drôle chaque fois dans le parcours des entrepreneurs, que c'est lié soit à des circonstances positives comme moins positives, soit à ton réseau, que d'un coup tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, et puis ben, tu avances dans ta vie entrepreneuriale. Et c'est ça finalement la vie et l'entrepreneuriat, hein, c'est faire face à des opportunités, à des challenges, et puis savoir en tirer profit et mettre en place des choses. Donc là, tu découvres les NFT, entre guillemets, par ces circonstances.
tu rentres dans Atto. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de Atto, cette startup LegalTech?
Donc, ce que j'ai appris, donc, assez fascinant, c'est que la plupart des NFT vendus, je dirais presque 99% des NFT vendus, sont théoriquement en fait illégaux. Ils pourraient être cassés par une cour de justice. Parce que on parle de smart contract, oui, ça c'est bien, mais en blockchain on dit code is law, mais c'est pas vrai en fait. Le droit, c'est le droit. Donc si t'as pas des term sheets qui sont des conditions générales de vente bien définies, qui sont intégrées dans le NFT, en fait, ce NFT n'est pas vraiment valide. Ça c'est un premier truc. Deux, en fait, il y avait plein de problèmes en question d'attribution parce que c'était pas clair. T'achètes quelque chose, mais t'achètes quoi réellement? T'achètes le droit de le regarder, de l'utiliser, de faire un logo. Tout ça était dans un flou total. Donc ça veut dire, j'ai réalisé qu'en fait, personne n'est protégé, ni les artistes ou les créateurs, ni les acheteurs. Donc Atto venait vraiment résoudre ce problème-là avec, c'était le tout premier en fait au monde à avoir ingéré des CGV dans un NFT. Donc il y avait tout ça, il y avait l'outil de minting, comment développer des marketplaces en white label pour des marques, puisque c'est pas génial d'être noyé dans l'océan de certaines des plateformes où il y a beaucoup de scams. Donc ça c'est vraiment Atto, c'est donc donner une colonne vertébrale juridique et technologique au projet NFT.
Ok, parce que justement on en parlait tout à l'heure, mais donc explique-nous plus clairement le concept que même si tu as un smart contract, parce qu'aujourd'hui tout NFT repose sur un smart contract finalement, bah y a pas quand même d'éléments juridiques, il y a un vide juridique, un flou juridique autour de tout ça, c'est ça?
Oui, c'est ça, parce que le smart contract il régit certains automatismes, mais en fait c'est pas un contrat qui est reconnu par une cour de justice. Donc c'est pour ça que tu dois pouvoir intégrer dans les métadonnées de ton NFT en fait des conditions générales de vente au minimum qui sont rédigées dans un langage qui est acceptable dans des formes qui sont conformes justement à des cours de justice. Donc là, toutes les contrats Atto ont été basés sur le droit français. C'était un choix de Mathieu et Julien parce que c'est le droit qui est le plus protectif pour les artistes, mais il est applicable dans plus de 142 pays grâce à la Convention de Berne.
D'accord. Donc en gros, tout NFT qui ne dispose pas de ces éléments dans sa métadonnée est en fait proie à un flou et un vide juridique absolu à l'égard de son usage et à l'égard de
sa
propriété.
C'est tout à fait ça. Et la plupart des marketplaces, en fait, elles sont surtout soucieuses de se protéger elles-mêmes. Donc, elles ont des term sheets qui protègent leur plateforme. Mais ça couvre pas en fait ce qui se passe entre l'acheteur et le vendeur du NFT en précis en question quoi.
Ok, je vois, c'est intéressant. Et ensuite du coup, il y a Atto, ouais. Mais il y a aussi Space. Est-ce que tu peux nous dire plus à l'égard de Space et tout ce qui tourne autour de cet écosystème?
Bien sûr, Space ça a été lancé suite à l'encouragement et puis l'investissement de Tourage Ebrahimi, le professeur. Donc c'est l'un des inventeurs du JPEG. Ils sont nombreux, mais il en fait partie. Et donc c'était l'autre personne qui était très très actif et proche de moi qui m'a accompagné dans mon parcours NFT. Il avait cet espace à Crans-Montana, il a dit pourquoi pas créer une galerie d'art physique là-dedans, on avait parlé aussi précédemment. Donc on a créé cette marque Space avec le contre-pied donc du numérique, c'est-à-dire d'avoir un espace physique, une vraie galerie d'art avec toute forme d'NFT dedans, puisqu'on voulait aussi rappeler que le NFT n'est pas qu'une image, ça peut être une image, ça peut être un objet 3D, ça peut être une expérience volumétrique, ça peut être un objet physique même, ça peut être beaucoup de choses. Donc on a voulu...
Ça peut même être, excuse-moi de couper, ça peut même être simplement un certificat d'authenticité lié
c'est
à
ça.
Une
en fait,
œuvre
le
physique.
NFT, vous rappelez, le NFT lui-même, c'est juste c'est un certificat, c'est pas... qui pointe vers quelque chose.
C'est ça.
Tu dis ce certificat pointe vers une image, pointe vers un objet, pointe vers un film en réalité virtuelle, peu importe. Ça c'est tout est possible en fait, on peut NFTiser à peu près tout. On pourrait NFTiser nos voix, tu vois, il y a de plus en plus ces systèmes de transcription audio. Tu as une très belle voix, tu pourrais la NFTiser et la vendre pour un usage par exemple. Tu peux NFTiser ton visage. Donc tout est possible. Donc on a créé Space au Space 3 pour justement permettre au public, aux collectionneurs de toucher, comprendre et rentrer dans un espace qui est safe pour rencontrer l'art NFT. Et également, c'était aussi pour permettre aux gens de payer avec des fiat, donc avec des monnaies et des cartes de crédit, et ne pas passer par les crypto-monnaies nécessairement, parce que c'est pas obligatoire. pour l'acquisition en faisant des transferts de contrats directs. Donc ça a été l'expérience de Space Galerie Physique. Mais donc, dans la foulée, j'ai souhaité aller au-delà de la galerie physique et voir comment est-ce qu'on peut travailler d'autres personnes aussi sur le digital. Et là, il y a une rencontre qui a été très importante, c'est avec Amos Rosenberg. Donc Amos est producteur, il produisait essentiellement du live avant. Il a produit le concert de Rita Ora à la Tour Eiffel notamment. Et là, il fait son premier long métrage qui s'appelait Music Hall, qu'il a coproduit avec Luc Besson. Et Amos et moi, on s'était connus à Cannes, on avait fait plusieurs événements ensemble. Justement, en 2018, on avait fait avec le World Ver et lui le Blockchain Boat, qui est pas vrai, sur les blockchains déjà en 2018. Et là, il m'a dit, écoute, Salar, je veux faire des NFT autour du lancement du film. Est-ce qu'avec Space, tu pourrais nous accompagner pour créer une stratégie intéressante autour de ça? Donc, il s'avérait qu'il y avait des artistes parisiens qui avaient retravaillé tous les personnages du film en animation. Donc, il y avait vraiment une valeur artistique qui était là. Donc, j'ai été emballé par l'idée. On a sélectionné une série de tableaux, de dessins du film. Et là, on a fait un event à Cannes avec Cromontana et Swiss Film sur le pavillon suisse pour lancer justement ce sujet du NFT cinéma et le partnership entre Space et ce film. Donc ça a été un moment très intéressant. Et puis après, il y a eu donc le partnership avec Binance sur ce projet.
Ok, c'est super intéressant. Et toi qui gravites dans ce milieu, dans cet écosystème depuis des années, tant la blockchain que le VR, que les NFT, quelle est ta vision des choses à l'égard de l'adoption de masse de ces nouvelles technologies?
Ça, c'est une grande question. Je pense que bon, dans le milieu du gaming, c'est l'endroit où c'est le plus développé. Franchement, c'est là où il y a un vrai marché, que ce soit à la fois pour la VR ou pour les NFT, à cause des utilités que tu peux avoir dans les jeux. Donc ça, c'est l'endroit où il y a eu le plus d'adoption. Maintenant, pour que la masse générale adopte ça, il va falloir encore un peu de temps, je pense, parce qu'il faut que pas mal d'infrastructures digitales puissent être pluguées sur le Web3. C'est-à-dire, beaucoup de gens sont pas conscients en fait de la facilité que offrent les interactions wallet avec les services digitaux. Parce que là, on a des comptes partout sur Internet, 1 million de passwords, c'est toujours très compliqué, quoi. Et ça montre en fait que c'est vieillissant, parce qu'on est en train de mettre des surcouches sur des choses qui deviennent obsolètes. Alors que grâce au Web3, en fait, on n'a plus besoin d'avoir des comptes, puisqu'il suffit d'avoir un wallet et après de signer en un clic, en scannant un QR code n'importe quel site. Et là, on est directement dedans. On n'a plus besoin de créer un compte, ni rien du tout, de mettre son nom. Donc, le jour où la plupart des plateformes vont pouvoir en fait intégrer du Web3, où il y aura une facilité de paiement aussi, je pense que là il y aura une mass adoption en fait totale des outils Web3, ça c'est sûr. En termes de réalité virtuelle, comme je te disais, pour le jeu vidéo, ça va vraiment se développer et ça va continuer. Il y a plus de compétition maintenant aussi, il y a un nouveau momentum maintenant qu'on n'a pas vu depuis 2016, avec l'arrivée notamment de ByteDance, donc le propriétaire de TikTok dans la marche. Donc ça, c'est très bien, parce que ça va aussi ramener de l'argent nouveau pour la création. Et plus les casques vont être légers et petits aussi, plus évidemment, il y aura du monde. Mais la grosse, grosse mass adoption, je pense que ça sera le jour où on aura les lunettes de réalité augmentée qui fonctionneront. Donc ça va être le truc où tout le monde en aura un. Parce que je pense pas que ça soit le cas pour la VR. Je vois pas en fait un moment où tout le monde aura un casque VR chez lui. Ça c'est, je suis pas certain.
Ouais. Non, je te rejoins. J'ai sensiblement la même vision, la même analyse. Et c'est un sujet dont j'avais également entendu parler en novembre 2021 encore. Il y a de ça à peu près un an, un peu plus. Non, c'était pas en novembre, c'était avant septembre, il y a un petit peu plus d'un an. Même discours, donc ouais, tout à fait. Et un autre sujet, c'est toi qui gravites autour de cet écosystème et qui plus est avec des gens sérieux, solides, qui ont une intention réelle de créer quelque chose de long-termiste et de qualitatif autour de ce monde-là et qui ne va pas sauter sur la blockchain ou l'opportunité NFT uniquement par opportunisme. Comment est-ce que tu as perçu et vécu, ressenti la hype NFT qu'on a tous vu durant cette phase justement d'euphorie sur ce bull market avec les NFT, où tu avais certains NFT qui finalement n'étaient basés sur aucun euh, euh, aucun sous-jacent, aucune utilité, quelle qu'elle soit, qui était vendue des fois 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 500 000 dollars, et qui aujourd'hui, on le voit, hein, on en voit de plus en plus des gens qui avaient acheté des images NFT, plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire plusieurs centaines de milliers de dollars, et qui aujourd'hui vaut quelques dizaines de dollars à peine. Du coup, ça serait intéressant d'avoir ton point de vue à ce sujet. Est-ce que c'était de l'art et puis c'est purement la loi de l'offre et la demande? Est-ce que c'était au-delà de l'art et qu'on était vraiment dans une euphorie, une hype totalement inconsciente et ça s'est calmé? C'était une bulle? Est-ce que ça va revenir? Quelle est ta vision?
Écoute, je pense en fait que c'est très bien que ça soit écroulé parce que c'était pas sain. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, de un, le gros boom a été au début du Covid. On était à un moment aussi, il y avait beaucoup de cash disponible, où les cryptos avaient fait un bond énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui avaient peut-être d'autres intérêts, c'est-à-dire, ils voulaient maintenir la valeur, en fait, de leur crypto, et il y avait des échanges qui étaient en réalité fictifs. Il y a probablement eu pas mal de lavage d'argent qui s'est fait aussi, à ce moment-là. Donc, je pense que c'est plutôt sain, maintenant, qu'on soit derrière cette étape-là. Parce que c'est maintenant où les projets sérieux, où les projets qui sont vraiment artistiques vont pouvoir en fait sortir du lot. Donc je pense que c'est assez naturel ce qui s'est produit. Hein. C'est comme dans tout Internet, ça a été pareil. La VR, ça a été pareil. En 2015-2016, il y a eu tellement de boîtes qui ont reçu des millions d'investissements, 90% qui ont fait faillite parce que il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça. De méconnaissance, de besoin de trop de cash disponible, de boom des cryptos. Et probablement un peu de lavage d'argent aussi.
Ok. Ouais, c'était une hype globale qui s'est mise en place. Et dans tout ce melting pot, justement, de NFT, de collection, de projets, de concepts, quand tu es à l'initiative d'un projet tel que Space ou autre et que tu veux exposer de l'art et puis justement mettre en lumière le monde du NFT, le monde du Web3, comment est-ce que on choisit les projets qu'on va mettre en lumière? Comment est-ce que fait la sélection de ces derniers et quels sont, on va dire, les green flags et les red flags qui font que tu vas ou pas t'orienter vers tel ou tel projet?
C'est une très bonne question. Alors bon, on va évidemment d'abord commencer avec son réseau parce que dans mon réseau, voilà, il y a des artistes, il y a des gens que je connais qui, donc je les ai sélectionnés soit parce qu'ils étaient déjà cotés dans le milieu de l'art, soit parce que j'ai vu qu'ils ont un projet sérieux derrière ou une œuvre importante à déployer. Donc ça, c'est d'une part. Et après, ça a été comme avec le projet d'Amos Music Hall, c'était de trouver des projets qui sont liés à autre chose aussi, qui a un autre degré. Là, c'était un film. Il y avait un nom qui était celui de Luc Besson comme coproducteur qui a beaucoup aidé. Et après, c'est trouver des bons partenaires. Je veux dire, Binance a été déterminant dans le succès de l'avant, je veux dire. Sans leur aide, ça n'aurait pas marché, c'est sûr.
Ok.
Pas aussi bien.
Ah, c'est certain que quand tu as le nom de Binance qui est derrière toi et qui est avec toi, tout de suite, ça t'offre une certaine crédibilité. Et justement, ça me vient à une question. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui écoutent ce podcast et qui ont plein de projets. C'est un podcast d'entrepreneurs. Donc, actuellement, les projets, les idées, elles pullulent à une vitesse incroyable dans l'esprit de chacun. Et les projets Web3, il y en a beaucoup qui ont été, leur attention a été aspirée justement par l'écosystème Web3 et veulent absolument mettre en place une solution, une start-up et autres parce qu'on est dans un nouveau monde, on est dans une ère d'opportunité, il y a plein de solutions à mettre en place vu qu'on est en train de créer des choses. Parfois même quelques lignes de code dans un protocole peuvent faire l'objet d'un tout nouveau produit qui va potentiellement être valorisé des dizaines, si ce n'est des centaines de millions, si ce n'est plus. Donc naturellement, il y a beaucoup de porteurs de projets et souvent, quand tu as des mastodontes comme Binance qui te back, donc pour ne citer que lui, mais il y en a d'autres, des gros noms de cette industrie, ça peut tout changer. Comment est-ce que tu t'y es pris pour justement les avoir en partenaire? Quel a été le mode opératoire et quels ont été les enjeux pour réussir à les avoir auprès de ce projet-là?
Écoute, la rencontre s'est faite avec David Princey, qui est le directeur de Binance France à Cannes, justement. Et j'ai été vraiment épaté par cette rencontre parce que j'étais face à quelqu'un de non seulement très sérieux, très très compétent, avec lequel on a pu échanger, parce que c'était lors de la soirée Orange d'ailleurs, où on s'est séparés les deux pendant 40 minutes à discuter. Et c'est à ce moment-là, il m'a parlé de la marketplace NFT Binance. Je savais qu'elle existait, mais j'étais pas plus familier avec que ça avec elle. Et ils nous ont proposé donc de pouvoir du coup de vendre exclusivement sur Binance et que eux derrière nous aideraient aussi pour tout le déploiement marketing. Et je pense c'est ça qui a eux ils ont été bottés par le projet, je pense pas à la fois parce que bon ils ont vu qu'on avait du sérieux dans le domaine. Évidemment le nom, je pense le nom de des coproducteurs a aidé aussi pour le projet. Il y avait une valeur artistique. Donc je pense qu'on a pu cocher toutes les cases de leur côté parce que c'était vraiment une invitation, je dirais, de leur part de travailler avec nous dessus. Et c'est clair que quand tu es sur une marketplace avec beaucoup d'utilisateurs et que les utilisateurs sont directement touchés par la com, ça c'est fabuleux quoi. Parce que tu peux vraiment vraiment parler aux gens parce que tu mets ta collection sur OpenSea ou Foundation juste comme ça, tu fais quelques posts Facebook, c'est très dur en fait de sortir du lot. Et là, on a eu des millions d'utilisateurs qui ont reçu des notifs, des push notifications. Ça a vite marché, donc du coup, on était en tête sur la marketplace Binance pendant une semaine. Donc ça a énormément aidé. Et ça a été génial pour le film, parce que tous les gens qui achetaient le NFT pouvaient être à l'avant-première du film au Grand Rex à Paris, pendant la fête du cinéma, qui est la plus grande salle de cinéma d'Europe, peut-être la plus belle aussi. Et tu pouvais, donc si tu montrais ton Binance Wallet à l'entrée du cinéma, et que tu montrais que tu avais un des NFT du film sur ton wallet, bah, tu pouvais accéder à la séance, quoi. Donc ça, c'était intéressant aussi de bridger avec le monde physique. Maintenant, on continue avec Amos pour la suite, parce que le film il sort en VOD. Donc, on développe aussi une plateforme de NFT VOD en quelque sorte, qui s'appelle Jungle Fever. Et là, en gros, c'est tu achètes un NFT et tu as accès, en fait, tu possèdes le film. Et c'est un peu redonner du ownership sur les films, parce qu'aujourd'hui, bah, depuis le Blu-ray, il n'y a pas eu d'autres formats vraiment physiques. Et puis, quand tu achètes un film sur une plateforme style iTunes, tu possèdes pas vraiment le film, en fait. Tu l'as dans ton compte Apple sur tel endroit, mais tu peux pas le revendre, tu peux pas vraiment en disposer comme tu veux. Tandis que avec ces plateformes, tu peux. C'est-à-dire, soit tu te fais une collection et tu gardes, soit tu peux les revendre. Donc c'est assez intéressant.
Ah, c'est effectivement très intéressant. Et comment vous voyez la chose au niveau de la supply? Elle,
Ouais,
ce
ce serait
serait
une supply
limitée, une supply
limitée. Donc là,
illimitée?
le premier film, il va être limité à 10 000 copies. Et on risque de rester dans ces eaux-là. Maintenant, on est pas mal en discussion avec les ayants droit pour développer le catalogue, en fait. Il y a un seul film pour l'instant, qui est le musical, c'est le premier, c'est le proto. Le film de réalité virtuelle que j'ai produit en Amazonie, qui sort l'année prochaine, sera le premier film VR disponible sur la plateforme. Bah là, on est en pleine discussion pour développer le portfolio et tenter l'expérimentation.
Ouais, parce qu'effectivement, moi j'ai typiquement acheté des films sur YouTube Vidéo ou Apple Film, ou je ne sais même pas comment ça s'appelle, Apple TV. Et ouais, tu dépenses 10, 15, $20 pour voir un film une fois, tu l'as vu une fois, tu es content, mais tu vas pas forcément le regarder 15 fois. Si tu aurais la possibilité de le revendre sur un second marché, une marketplace dédiée, ou... Tu peux du coup le revendre plus cher, moins cher, peu importe, et que derrière il y a un pourcentage du fees qui va à la marketplace, qui fait que sur toute la longévité du film, les ayants droit, enfin en tout cas les créateurs, perçoivent quelque chose. Ça peut être,
Voilà, t'as
ouais,
tout
c'est
compris,
une
c'est
excellente
ça.
idée, ça.
Et
C'est une
puis après, il y
excellente
a
idée.
aussi ce qui est prévu, c'est des watch parties, c'est-à-dire que dans les environnements virtuels, tu peux inviter tes amis à voir le film si tu le possèdes. Il y a pas mal de choses comme ça qui vont se développer autour.
Très intéressant. Mais c'est typiquement, tu vois, ce que je disais, les cas d'application dans ce nouveau monde et ces nouvelles opportunités sont extrêmement larges. Et ça, c'est typiquement une idée à laquelle j'ai jamais pensé. Et pourtant, des idées dans cet univers. On en a tous beaucoup toutes les semaines quand on gravite autour de cet écosystème. Mais c'est une excellente chose, c'est une excellente idée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que justement, tiens, ça peut être aussi l'objet d'une question et d'avoir ton avis? Tu sais, quand tu as ce genre d'idée, c'est un peu. C'est toujours d'avoir le bon timing. C'est-à-dire, est-ce que le marché est réellement prêt aujourd'hui pour ça? Est-ce que les technologies et les cas d'usage du quotidien sont prêts pour ça? Est-ce que finalement, on ne va pas juste s'adresser à une niche d'individus qui sont des crypto early adopters, qui vont adorer le principe parce qu'on est décentralisé, parce qu'on redonne le droit au peuple et parce que justement tu as cette transparence? Et comment faire pour finalement soit avoir le bon timing, soit être assez bon pour être un acteur de l'éducation de masse et élever le niveau de conscience globale de tout un marché, qui est quand même l'industrie du film, du vidéodivertissement, qui a un marché ancré, énorme. Et on l'a vu, hein, Netflix par exemple, à la base, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'était des locations de cassettes. Il y a d'autres acteurs je sais plus comment il s'appelait, Blockbuster, ou je sais plus comment il s'appelait aux États-Unis, qui eux ne se sont pas renouvelés et n'ont pas voulu, changer, et aujourd'hui on fait faillite. Donc tu vois, tu as autant, quand c'est le bon moment, cette capacité à pivoter, oui, qui est indispensable, autant si tu as le mauvais timing par rapport à une innovation, et j'en ai eu plusieurs, des exemples comme ça dans mon entourage ou des gens que j'ai pu accompagner, etc., qui m'ont raconté des anecdotes ou même je l'ai vu de mes yeux, bah, des fois, tu ne chopes pas le bon créneau. Toi, quelle est ta vision de ces fenêtres de tir ?
C'est absolument vrai. Hein. Donc, le timing, c'est évidemment la clé pour pénétrer. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un mauvais timing pour faire cette plateforme, justement, parce que tout de même, on a le nombre de gens qui possèdent des wallets et qui sont en capacité, en fait, d'accéder à ça est suffisamment important sur un supply de 10 000 exemplaires par film. On n'est pas non plus sur des millions en termes d'objectifs. Mm-hmm. Donc ça, c'est, je pense, réalisable. Et on est aussi à un moment donné où on sent quand même, on arrive à une sorte de Netflix ou streaming fatigue, quoi. Il y a ce système du all you can eat, il est bien, mais en même temps ça désacralise complètement les œuvres et on passe presque plus de temps à chercher ce qu'on veut voir que voir quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est pas un mauvais moment. Et puis l'homme, il a toujours aimé collecter des choses. Ça, c'est, je pense, dans la nature profonde de l'homme de collectionner et d'avoir des objets. Donc j'ai l'impression que le timing est plutôt bon, en fait, pour faire ça. Puis si c'est pas le cas, ma foi, bah, ça sera pas le cas. C'est pas... Ouais. Il y aura pas mort d'homme.
Non, je te rejoins, mais tu vois, là, typiquement, on entend notamment dans les éléments d'analyse pour pouvoir check le fait qu'on soit bon, bah, c'est typiquement, OK, quel est le niveau de pénétration de marché, sophistication de marché à l'heure actuelle par rapport au nombre de détenteurs d'un wallet versus comment se comporte l'état du marché actuel sur les plateformes de streaming ou autres, versus les besoins fondamentaux des gens. Est-ce qu'ils ont changé, est-ce qu'ils ont évolué ou est-ce qu'on reste là-dessus? Donc tu vois, c'est trois critères ici qui font qu'effectivement on peut se dire ça vaut le coup en tout cas d'avancer et de démarrer. Et ça, c'est pour tout le monde qui nous écoute, quel que soit le projet sur lequel vous êtes, ce sont des choses à faire et des critères à identifier, bien sûr propres à chaque industrie.
C'est ça.
Ok, c'est super intéressant.
Le timing, tu vois, là, c'est super pas le moment intéressant. Où, là, j'achèterais surtout pas de terrain maintenant, tu vois, par contre, dans les métaverses, parce que pendant le timing, là, je pense que c'est pas un bon timing pour faire ça. Évidemment, il y a des gens qui ont pu gagner pas mal d'argent.
Bah, justement, ouais. Tiens, parlons-en. Quelle est ta vision sur les métaverses, les terrains dans les métaverses, etc. Parce que là aussi, il y a eu une hype absolument ahurissante, ouais, peut-être encore plus que certaines images, où tu avais des Decentraland, des sandbox et autres, mais surtout des Central Land quand ils faisaient leur drop, où tu achetais des yachts, des motos, des voitures, des lands dans ça, pour des prix, des 100 000 dollars, 200 000 dollars, 1 million de dollars le yacht. Moi, je trouvais ça absolument fou. Et là je commençais à me dire, OK, il va falloir que je commence à vendre le maximum, que je tire profit de ce qui a attiré profit, mais ça sent mauvais pour la suite parce que c'est pas possible que ça continue à monter comme ça. Il va y avoir une correction, il va y avoir un retournement, ouais, c'est certain.
Ben, en fait, je pense, bon, tant mieux pour ceux qui ont pu générer des profits dessus et tant mieux pour les plateformes, hein, c'est sûr. Mais même, je pense, philosophiquement, de base, pour moi, il y a un problème avec sur le terrain dans les métaverses, en fait. Parce que dans le monde réel, un terrain situé dans une rue principale, la rue du Rhône à Genève par exemple, vaut cher parce que on a les contraintes du monde physique. Donc tu vas être à un endroit et pour aller à un autre endroit, tu vas devoir te déplacer physiquement. Donc plus t'es bien situé, plus ça va coûter cher. C'est normal, c'est logique. Mais dans un monde virtuel, il est infini en fait, le monde virtuel, de base en fait, par définition. Donc avoir des emplacements physiques et d'avoir des coûts par rapport à des emplacements physiques n'ont aucun sens pour moi en fait dans un métaverse. Donc c'est pour ça que je suis déjà à la base pas vraiment pour, et je suis pas certain aussi que les plateformes existantes vont être celles qui vont perdurer, on sait pas, tu vois. Decentraland par exemple, il y a 30 utilisateurs aujourd'hui, Meta ils ont investi des millions, des milliards même, tout le monde trouve ça nul. Donc il y a pas de métaverse aujourd'hui comme il y a un internet. Il y a des environnements virtuels qui existent de différentes sociétés. Certaines proposent des choses, d'autres fonctionnalités. Donc je pense que c'est vraiment un moment où on doit attendre, regarder, essayer, mais pas en tout cas faire des investissements sérieux là-dedans. Enfin, c'est ma perception. Après, j'ai pas la vérité infuse, mais
je te rejoins sur un sujet, un point. On en parlait tout à l'heure, notamment sur le point que finalement, tu es dans un monde virtuel. Donc, dans un monde virtuel, tu n'as pas ces contraintes physiques, ne serait-ce que la gravité, ne serait-ce que le fait de devoir marcher, où tu peux te téléporter, tu peux ci, tu peux ça. Et du coup, par conséquent, voilà, je veux dire, on va pas accorder la même importance à un escalier, d'un ascenseur ou un truc. Donc, pourquoi vouloir recréer exactement la même chose? Et c'est un exemple tout bête, l'histoire des ascenseurs et des escaliers, mais quand tu n'as pas de gravité, quand tu n'as pas toutes ces contraintes qu'on a dans la vraie vie, pourquoi est-ce qu'on devrait les reproduire de la même sorte et y accorder, acheter un ascenseur $300,000 parce que c'est un NFT et parce qu'il y a une hype? Ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est ma vision. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout aussi d'un point de vue créatif. Et toi qui es un vrai créatif, je pense que tu comprends tout à fait ce point-là, où tu te dis, mais attends, mais vu que tout est possible, bah pourquoi on reste dans quelque chose qui est ce qu'on voit en ouvrant la porte de chez soi et en regardant par la fenêtre? Donc ouais, il y a ces sujets, justement, et c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Un autre point, toi qui as organisé des forums, donc je t'avais posé la question juste avant, pourquoi vous n'avez pas fait ce forum en VR, et tu m'as dit, bah, la force spécifiquement de ce forum, c'est l'humain et c'est la connexion, et je te rejoins à 100%, hein, ayant organisé des séminaires aussi, c'est priceless, les relations humaines qu'on peut avoir, les connexions réseau, ou même quand tu me parles de la rencontre avec le directeur France Binance, ben, si vous aviez fait un Zoom, jamais ces discussions auraient pu émerger, ni cette collaboration, ces partenariats. Donc, c'est sans sujet. Mais par contre, tu vois, encore récemment, je discutais avec quelqu'un qui voudrait potentiellement organiser une sorte de séminaire en VR dans une sorte de, pas un métaverse, mais finalement, ça en est un, une sorte de pièce qu'on pourrait avoir dans un métaverse, une pièce virtuelle, avec différents intervenants, exactement comme un séminaire, mais différemment. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'avenir, justement, des meetings, des meet-ups, même des conférences de travail où on peut être dans la même pièce, et puis, comme on le voit avec Meta, c'est un Oculus, tu peux justement montrer au tableau blanc des trucs, faire des schémas, des dessins, ou même plus tard pour des forums tels que tu as organisé. Est-ce que tu te verrais organiser le forum VR XR 2062 en full VR dans un métaverse que tu aurais créé?
Alors,
par exemple,
je pense qu'il y a en effet plein d'utilités. Moi, est-ce que je l'organiserais? Non, parce que c'est pas trop mon truc de faire des événements là-dedans. Mais par contre, il y a plein de choses excellentes pour les rencontres en groupe, déjà dès maintenant et déjà dès quelques années. En 2019, par exemple, on avait fait dans Engage, qu'on peut appeler un métaverse, parce que métaverse, en parenthèse, hein, c'est vraiment un buzzword, il n'y a rien de nouveau, c'est un concept ancien, et c'est des choses qui existaient depuis plusieurs années ont été rebrandées métaverse, en grande parenthèse. En 2019, on avait fait sur Engage une connexion avec deux écoles, l'école Le Rosé à Roll et l'école Le Régent à Crans-Montana, avec une classe d'une vingtaine d'élèves dans chacune, et ils ont eu un cours sur l'atterrissage d'Apollo sur la Lune. Donc ils étaient chacun avec leur avatar sur la surface lunaire, avec le prof qui parlait, il se baladait au fur et à mesure autour de la Lune, et puis ça, c'est super impactant, ça marche très très bien. Pour les meetings aussi, on est nombreux, c'est super, parce que rien de pire que ces meetings téléphoniques où il y a 10 personnes sur la ligne, ou un Zoom où il y a trop de monde, parce que pour notre cerveau, un truc aussi tout simple, c'est que notre cerveau, il associe toujours le son à une géographie, en fait, à une position géographique. Quand on se parle au téléphone, ton cerveau, il associe en fait le téléphone comme un lieu. Et quand t'es 10 personnes sur la même ligne, il y a un problème en fait, parce que du coup il y a 10 personnes sur le même lieu précis. Alors que quand tu fais un meeting dans un environnement immersif, bah là en fait vraiment, même si c'est avec des avatars, les gens sont disposés autour, le son est spatialisé, et c'est beaucoup plus confortable en fait pour pouvoir suivre ce qui se passe, de vérifier que les gens ne s'entrecoupent pas. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt en fait à utiliser ces plateformes dès maintenant.
Ok, bah écoute, on partage vraiment la même vision à l'égard de ce qui est les métaverses, les terrains et autres. Ça reste un sujet quand même intéressant à suivre de près. On a la chance d'être dans cet écosystème, et naturellement, quand il y est, bah, tu as créé un entourage qui te permet aussi d'être connecté aux nombreuses actualités qu'il faut absolument suivre, parce qu'il y en a tellement parfois qu'on ne peut pas toutes les connaître. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici avec moi pour le podcast. C'était un chemin parsemé d'embûches. On a eu une petite blocage technique, mais non, il n'en est pas moins que c'était super agréable et c'était super intéressant de justement faire cet épisode avec toi, de partager tous ces concepts qu'on a pu partager ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y aura des liens juste en dessous si on veut te retrouver et on veut aller plus loin avec toi. Et surtout, si vous qui nous écoutez, vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que moi, je n'en ai eu à l'animer, bien faites-le nous savoir avec les 5 étoiles sur les plateformes de podcast et partagez cet épisode tout autour de vous. Merci Salar et puis à très bientôt.
Merci Alec. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Bye bye. À une prochaine.
Merci.